Elles sont de moins en moins nombreuses à se mettre les seins nus sur les plages. Si l'on en croit la dernière enquête de l'IFOP, les Françaises, en tout cas les plus jeunes, disent se méfier des regards concupiscents de l'entourage. Et pourtant, les Français se disent dans leur immense majorité beaucoup moins gênés par les monokinis que par les burkinis, dont ils préconisent l'interdiction pure et simple sur les plages et surtout dans les piscines. Alors que dit de nous notre rapport au corps et que disent des Français leurs pratiques vestimentaires entre la liberté individuelle et la bienséance, ou placer le curseur dans la rue, la salle de sport, au bureau ou sous les ors de la République? Quelle est la part du règlement et de la simple habitude dans la combinaison moulante de Serena Williams qui fait scandale à Roland-Garros, ou bien les tenues de cirque reprochées par certains à la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye? Où sont la tolérance et le respect? D'ailleurs, s'il y a des codes à respecter, d'où viennent-ils et qui en a décidé ainsi? Pour en parler, nos invités ce soir, Frédéric Monneron, professeur de littérature et de sociologie de la mode à l'université de Perpignan via Domitia, auteur de La sociologie de la mode. Il est en duplex avec nous de Montpellier. Bonsoir Frédéric Monneron.
Bonsoir.
En studio à Paris, Elvire Amptaz, rédactrice en chef du Pôle Actu à Grazia. Bonsoir.
Bonsoir.
En ligne avec nous dans un instant également, François Cros, directeur du Pôle politique et actualité à l'IFOP. L'habit fait-il le moine? C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Et pour commencer ce téléphone sonne, la première question nous vient de Toulouse avec Kamel. Bonsoir à vous, Kamel.
Bonsoir, monsieur Philippe. Alors, ma question, y a-t-il vraiment des modes, hein? Et je trouve qu'en France, par rapport à certains de nos pays voisins, on a une certaine, on va dire, indiscipline par rapport à la tenue. Moi, j'ai toujours pensé que vouloir être dans le paraître égale mal-être.
Ça, c'est joli. C'est très joli. Merci de votre remarque, Kamel. Frédéric Monneron, il y a un mal-être dans ce laxisme vestimentaire que sous-entend Kamel aujourd'hui.
Oui, je pense effectivement que la mode depuis, oh, ça fait une vingtaine d'années, bon, on pourrait dire laisser aller, vous venez de prononcer le terme, effectivement est assez illustratif de l'état, disons, souterrain de nos sociétés. Effectivement, bon, le vêtement n'est pas superficiel. Bon, j'aime bien les traditions presque philosophiques, pluriséculaires, qui fait que les apparences sont trompeuses. Mais justement, les apparences sont pas toujours trompeuses. Et le vêtement, justement, peut nous dire beaucoup sur l'état d'une société. Et bon, effectivement, aujourd'hui, le laisser-aller, si on peut dire, est assez significatif de l'état actuel de nos sociétés.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-on parler de laisser-aller, d'ailleurs, ou d'un progrès de la liberté?
Alors, je suis pas sûr. Enfin, un progrès de la liberté, oui. C'est-à-dire qu'on s'habille, on va pouvoir s'habiller aujourd'hui d'une manière plus libre qu'on s'habillait précédemment. Bon, je remonte même pas jusqu'au XVIIIe siècle ou avant, où il y avait des codes, puisqu'on appelait par exemple les lois somptuaires, où les différents ordres, on parlait d'ordre et pas de classe sociale à l'époque, ne s'habillaient pas de la même façon. C'était même interdit. Et bon, tout cela a sauté avec la Révolution française. Bon, je suis dit, en Angleterre, par exemple, il n'y a pas eu de révolution à ce moment-là, mais ça peut passer la même chose. Alors bon, effectivement, il y a à partir de ce moment-là une plus grande liberté. Il reste que cette grande liberté où chacun peut s'habiller comme il veut, c'est ce que dit d'ailleurs la Révolution française, a remis par contre une très grande différence entre les vêtements masculins et le vêtement féminin. Le vêtement féminin, les femmes pouvant encore scintiller de tout leur feu, on pourrait dire, tandis que le vêtement masculin, depuis le début du 19e siècle, bon, est un vêtement uniformisé. C'est le costume, après tout, d'aujourd'hui. Et en plus, il était gris ou noir. Il faut attendre, d'ailleurs, le début du XXe siècle pour que le bleu marine, par exemple, commence à apparaître. Vous voyez, bon, il y a effectivement une uniformisation et une sorte de contrainte qui s'est mise en place. C'est indiscutablement. Alors bon.
Qui perdure, hein, malgré tout.
Qui perdure un peu, oui, effectivement. Enfin bon, il y a eu qu'on appelle parfois un séisme très important dans le vêtement, dans la mode, dans les années 60, où effectivement, bon, par exemple, alors c'est très important, on va arriver à parler de ça sans doute, justement à propos des seins nus sur les plages, mais c'est déjà bon le pantalon pour les femmes. Dès 1970, on vend beaucoup plus de pantalons que de jupes ou de robes pour les femmes. Vous voyez, bon, l'évolution est très importante. Alors aujourd'hui, évidemment, ça a non seulement ça a perduré, mais certains prédisent d'ailleurs que bientôt, bon, on sera tous en système fermé, pour parler en termes techniques, c'est-à-dire que le pantalon est plus en système ouvert. Une totale révolution, entre parenthèses, c'est intéressant, par rapport à l'Antiquité, il faut remonter très loin, où les hommes et les femmes étaient en système ouvert, tous les deux. Vous pensez à la toge romaine, par exemple. Vous voyez, alors bon, ça peut être une révolution totale. En tout cas, voilà ce qu'on en est aujourd'hui. Alors bon, une plus grande liberté au niveau des couleurs, au niveau d'un certain nombre de choses, des accessoires de mode, je pense particulier, par exemple, aux bijoux, etc.
Une plus grande liberté, Elvire Hamtas, vous êtes d'accord avec cette analyse, et d'ailleurs, est-ce un bien ou un mal ?
Alors, je suis assez d'accord avec le fait qu'il y ait plus de liberté. Si je peux revenir un petit peu sur la question précédente, je pense qu'on peut voir les choses de différentes façons. On peut certes parler d'un laisser-aller, on peut voir ça aussi comme une forme de décontraction. C'est-à-dire que depuis quelques années, il y a une mode qui est venue beaucoup du monde du sport. Vous évoquiez Serena Williams tout à l'heure. La tenue de Serena Williams, elle a été faite par un créateur qui s'appelle Virgil Abloh, qui a beaucoup changé la donne parce que il a apporté une mode beaucoup plus décontractée avec des codes inspirés à la fois de la rue et du monde du vêtement sportif, avec des matières plus molles comme on les verrait sur un jogging, mais qui là vont être appliquées à des codes du luxe.
Donc il n'y a pas volonté de choquer.
C'est pas une volonté de choquer, je pense que c'est une mode qui s'inspire aujourd'hui plus de la rue, et donc qui peut paraître à certains comme un laisser-aller, parce qu'effectivement, ça fait qu'on retrouve parfois même certains chefs d'entreprise qui vont plus forcément être en costume-cravate, mais qui vont être dans une tenue un peu plus casual, pour faire un anglicisme, un peu plus décontracté.
Alors, j'en parlais tout à l'heure, il y a cette étude IFOP parue la semaine dernière pour le site vielfi.com, étude réalisée à partir de 7 sur 5000 femmes. 19% des Françaises de moins de 50 ans se mettent aujourd'hui parfois seins nus sur la plage, mais elles étaient 29% il y a 3 ans et deux fois plus, 43% en 84. François Cros, vous êtes le directeur du pôle politique actualité à l'IFOP, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors le monokini serait donc passé de mode sur les plages de France. Pourquoi précisément ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, bah oui, par rapport à la grande époque des années 80, qui fut celle du bronzage monoï et du kilt du teint hâlé, il est clair qu'on observe un recul des adeptes du topless en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. La proportion de femmes s'adonnant à cette pratique ayant été divisée en deux à peu près, en un peu plus d'une trentaine d'années. Et l'intérêt de cette enquête, c'est que pour la première fois, on est allé poser des questions sur les raisons pour lesquelles les femmes exposaient moins leur corps dans les lieux publics en général, mais surtout sur les plages en été. Et là, on voit que les jeunes femmes, tout particulièrement, expliquent le couvrement de leur poitrine par la crainte d'attiser le désir des hommes et d'être l'objet d'agressions physiques ou sexuelles. Signe que la pression sexuelle qui s'exerce sur elle toute l'année continue aussi sur les plages en été. Alors, c'est seulement pour les jeunes femmes. Pour le reste de la population féminine, le premier argument mis en avant, c'est celui du risque sanitaire, c'est-à-dire le risque d'exposition que le soleil fait courir pour leur peau en été, en étant exposé de la sorte. Donc on voit là l'impact des discours de mise en garde d'ordre médical qui, au fil des années, ont diffusé l'idée que le topless était une technique de bronzage à risque. Mais le plus intéressant, c'est sur les jeunes filles, qui, je vous le rappelle, sont les plus exposées au harcèlement de rue, au harcèlement sexuel, au travail en général. Le couvrement des corps s'explique, lui, pour des motifs sécuritaires. Alors donc, on voit que les jeunes femmes ont clairement intériorisé les risques que pouvait entraîner le fait de se dénuder alors que leur mère le faisait plus naturellement dans les années 70-80.
Alors ce qui peut paraître paradoxal, un an après le mouvement MeToo, autrement dit, ce mouvement aurait apporté un besoin de se protéger plus qu'une libération. François Cros.
Le mouvement MeToo, un mouvement de ras-le-bol.
Ah, on a perdu la liaison avec François Cros. Un commentaire avec à cette enquête, Elvire Omtage. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du pôle actu de Grazia, le magazine hebdomadaire.
Oui, je trouve que cette enquête est vraiment intéressante parce que elle met en avant un constat qui est assez triste en soi, qui est qu'effectivement les jeunes femmes ont intériorisé cette idée qui est bien souvent sortie par les agresseurs, qui est qu'en fait la jeune femme agressée est en partie responsable de l'agression puisqu'elle porte une mini jupe ou a un décolleté. L'enquête va un petit peu plus loin parce qu'elle pointe différentes causes. Elle en parle pas forcément, mais pour avoir de mon côté aussi interrogé parfois des jeunes filles à ce sujet-là, il y a l'importance des réseaux sociaux qui joue sur deux facteurs. Un qui est évoqué dans l'enquête et peut-être
la peur de se retrouver en ligne.
C'est ça. Voilà, il y a cette peur de se retrouver en ligne parce qu'aujourd'hui avec notre téléphone, on est tous un peu devenus des paparazzi et cette idée qu'on peut se retrouver dans une story Instagram, donc une petite vidéo ou une photo volée qui sera ensuite publiée sur internet et on sait combien il est compliqué après de supprimer une photo qui est devenue virale. Voilà, il y a cette crainte-là. Il y a un deuxième aspect aussi qui est cette idée de cette crainte en fait de ne pouvoir se conformer à un corps parfait qui nous est constamment mis sous le nez sur les réseaux sociaux.
Par les publicités également.
Par les publicités, par les influenceuses stars, par les stars tout court aussi.
Mais ça, c'est pas nouveau, ça.
C'est absolument pas nouveau, mais je pense qu'au même titre que ce dont on parlait précédemment, ça a été aussi intériorisé beaucoup par les jeunes filles, mais pas seulement. Par les garçons aussi, qui peuvent avoir cette espèce de diktat permanent du corps parfait, qui est un petit peu fatigant, mais du coup qui devient complexant à la plage.
François Cros, vous êtes là ?
Oui, très bien, je suis.
Alors le mouvement MeToo d'un côté, les réseaux sociaux de l'autre, la modernité finalement, ça n'apporte pas toujours le progrès.
C'est sûr, je confirme totalement ce que disait la personne qui intervenait auparavant. Une des conclusions de l'enquête, c'est que c'est autant le regard des autres que le regard que les femmes portent sur elles-mêmes qui pousse les jeunes femmes à moins se dévoiler aujourd'hui qu'hier. Et dans un contexte plus que jamais marqué par le desserrement d'images de corps parfaits, souvent d'ailleurs retouchées sur les réseaux sociaux, la presse féminine, la publicité, c'est la crainte de ne pas répondre aux canons de beauté en vogue qui constitue aussi un frein important pour toutes celles qui ont intériorisé l'idée qu'il fallait un corps irréprochable pour se permettre de le montrer en public. Et ça, notamment chez les jeunes filles, ce terrorisme esthétique, entre guillemets, il est très intériorisé.
Alors un autre élément de l'enquête porte sur le burkini. Hein. Les Français n'y sont pas favorables. Ils ne sont pas gênés par les monokinis, les Français, mais 66% d'entre eux se disent favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. 73% dans les piscines publiques. Là aussi, comment expliquer ça ? Une sorte d'incompréhension. On a l'impression que les jeunes femmes, que tout part en sens inverse finalement, alors que depuis des années, depuis plus de 50 ans, on a plutôt tendance à se dénuder sur les plages. Aujourd'hui, ça part dans l'autre sens.
Oui, je pense que si ce rejet massif du couvrement des corps à connotation religieuse relève aussi peut-être d'un réflexe de nature, je dirais, islamophobe, entre guillemets, il tient aussi probablement au fait qu'il peut paraître inapproprié à certains dans un lieu dédié au bain de soleil et au bain de mer de couvrir son corps, vous voyez. Et en tout cas, on voit bien que il suscite des réactions aussi fortes depuis 2016 et la première polémique sur le sujet à celle qui est survenue cette année à Grenoble que celle qu'on pouvait observer au milieu des années 60 avec l'apparition du monokini sur la Côte d'Azur qui suscitait elle aussi des arrêtés municipaux, mais cette fois pour couvrir le corps des femmes. Donc on voit bien que la question du voilement des corps sur les plages en été a toujours suscité d'intenses polémiques, tant celui-ci est symptomatique des évolutions des normes de pudeur imposées aux femmes et notamment de leur capacité à s'affranchir des injonctions, je dirais, vestimentaires de nature morale ou religieuse.
Merci à vous François Cros, directeur du pôle politique actualité à l'IFOP. On va vous laisser partir puisque vous êtes très loin de nous. Merci à vous. Frédéric Monneron à Montpellier. François Cros parlait à l'instant du terrorisme esthétique qui se développe de plus en plus. C'est votre sentiment là-dessus?
Oui, là, je pense que c'est pas nouveau, mais enfin bon, ça fait justement quand est apparue la mode des seins nus sur les plages, ça existait déjà. Et je pense donc ça joue un rôle assez marginal à mon avis. Mais bon, je pense qu'il faut revenir justement sur ce problème des seins nus. Enfin, après tout, c'est aussi le problème du soutien-gorge. Faut revenir justement, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même des grandes révolutions dans la mode dans les années 60, début des années 70. Alors bon, ça c'est assez intéressant parce que justement les seins nus, enfin là pour le coup pas forcément sur les plages, je dirais, enfin le problème du soutien-gorge, pensez que bon, en 71 exactement, vous savez, en France justement les féministes veulent brûler leur soutien-gorge parce que c'est une contrainte qui pèse sur le corps féminin. Mais pratiquement dans les mêmes années, même un peu avant, en 68-69, il y a les blouses transparentes d'Yves Saint-Laurent qui ont fait scandale aux États-Unis. Alors effectivement, avec des blouses transparentes, on portait pas soutien-gorge. Alors vous voyez, bon, le paradoxe de cela, c'est que les féministes d'un côté libéraient le corps de la femme des contraintes qui pèsent sur lui, ou aussi peut-être d'ailleurs des regards des hommes. Enfin, il y a un côté donc qui est pas très érotique, et au contraire, les seins nus. Sans soutien-gorge en tout cas, il y a une pose très érotique, enfin qui a été donnée comme telle, puisque les blouses transparentes d'Yves Saint-Laurent faisaient scandale aux États-Unis. Alors vous voyez, bon, il y a ça. Alors bon, ça se retrouve à nouveau sur les plages. Bon, est-ce érotique ou au contraire est-ce une libération? Les deux à la fois, une certaine mesure. Alors vous voyez, ben alors aujourd'hui, on a apparemment oublié un peu le côté de la libération, et c'est apparemment pour les jeunes femmes, elles conçoivent elles-mêmes que c'est érotique, ça va attirer les regards masculins. Ce qui, à mon avis, n'est pas si sûr que ça. Là, ça serait assez intéressant d'avoir des enquêtes plus approfondies là-dessus, parce que je suis pas sûr que les jeunes hommes aujourd'hui, ils savent trop ce qui est érotique désormais dans le corps féminin. Mais enfin, ça, c'est un autre problème.
Autre appel dans ce téléphone sonne. On va voir ce que nous dit un Cliff à Rodez, le regard d'un homme sur le corps des femmes. Cliff, nous vous écoutons.
Bonsoir. Moi, j'appelle juste pour en réaction. En fait, j'ai entendu l'intitulé de votre émission qui parlait du rapport au corps, et on a parlé de monokini ou de burkini. Mais en fait, c'est quoi? C'est un rapport au corps des femmes. C'est-à-dire que quand les femmes se mettent torse nu, ça porte à controverse. Il me semble que c'est interdit par la loi de se trimballer torse nu. Tous les hommes le font, tout le monde s'en fout, c'est très bien. Et ça serait peut-être bien que ça soit la même chose pour les femmes. Après, tous les problèmes qui ont été évoqués les dernières minutes, là, je les comprends, et c'est peut-être un autre débat. Mais voilà, ça porte à controverse. Et d'un autre côté, moi, j'ai été choqué ces dernières années de voir des injonctions à des femmes d'enlever leur burkini, en fait. Des injonctions à se dévêtir. Elles étaient obligées de se dévêtir à la plage. Ça, c'est quand même... un attentat à la pudeur, quoi, une atteinte à la pudeur. Si quelqu'un n'a pas envie de montrer certaines parties de son corps, on peut pas l'obliger au nom de, je sais pas quoi, de la laïcité ou quoi. Bon, et tout ça pour dire que voilà, c'est en fait à chaque fois un rapport au corps des femmes. Et je pense que le débat, il serait plutôt intelligent de s'interroger sur le rapport de la société au corps des femmes.
Donc pour vous, Cliff, pas question d'interdire le burkini dans les piscines, par exemple?
Ben non, enfin, je sais pas, comment dire, on peut se baigner et ne pas vouloir montrer certaines parties de son corps et être pudique.
Très bien, merci de votre intervention, Elvire Mtaz. L'affaire du burkini dans les piscines, c'est la laïcité poussée à son paroxysme, ou bien c'est une simple mesure d'hygiène et de sécurité, comme l'ont dit les élus des communes de Grenoble ou de Villeurbanne?
Moi, je vous cache pas que je suis toujours un peu embêtée de parler de ça, parce que j'ai l'impression que ça alimente un débat qui finalement concerne assez peu de gens. Le burkini fait réagir beaucoup de gens, mais au final, il n'est pas finalement arboré par tant de personnes que ça. Je pense que que ce soit le monokini ou le burkini, on est à deux extrêmes, évidemment, du corps, soit totalement couvert, soit totalement dénudé. Bon... Ça me paraît un peu un épiphénomène, voilà.
Frédéric Moléron, sur le burkini, c'est un code vestimentaire imposé en l'occurrence par un règlement intérieur des piscines. Mais sur les plages, c'est tout à fait différent.
Moi, je suis assez d'avis. Bon, justement, à Montpellier, je suis pas loin, je suis tout près de la plage. Bon, à vrai dire, j'en vois peu, ou même pas du tout. Par contre, ce qu'on peut parfois voir, c'est des femmes entièrement voilées qui se baignent pas d'ailleurs du tout. Là aussi, après tout, c'est relativement marginal. Il faut garder son sang-froid sur ce point. Ça reste un relatif épiphénomène, comme le disait Elvire à l'instant.
Mais c'est la laïcité. On parle de laïcité, là, en l'occurrence.
Oui, c'est un problème compliqué. Bon, c'est très français hein, aussi. Dans d'autres pays européens, effectivement, où la laïcité n'est pas à l'ordre du jour. Bon, tout le monde s'habille comme il veut, quand même. Et alors, pour le coup, le burkini ne sera pas frappé d'interdiction.
Et puis, il y a différentes façons de voir et d'appliquer la laïcité.
Bien sûr.
On le sait. Autre appel, c'est Serge qui nous appelle de Paris. Bonsoir à vous.
Oui, allô ?
Oui, Serge, nous vous écoutons.
Vous m'entendez ?
Nous vous entendons très bien.
Eh bien, c'est parfait. Alors moi, je suis assez surpris du surgissement de l'ordre moral, comme on le voit réapparaître de temps en temps. Votre premier intervenant qui est offusqué des dénudements sur la plage. Alors, en ce qui me concerne, vous aviez envie de nager avec votre jogging ou votre smoking de mariage. Ça m'est complètement égal. Le burkini, je m'en fiche, et en plus, c'est très marginal, comme le voile, enfin, comme toutes ces choses-là. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, et ce que je trouve parfaitement obscène et depuis longtemps, c'est, par exemple, le port de la cravate, vous voyez, comme code vestimentaire obligatoire.
Ah, vous trouvez ça obscène, carrément?
Ah, mais moi, je trouve d'une obscénité totale. Je pense que la cravate, qui était un cache-bouton à l'origine, vous voyez, pour moi, ça ressemble à une laisse de chien. Et les gens qui le portent ressemblent à des chiens. Enfin, il y a des gens qu'on peut attraper par la cravate et traîner comme avec une laisse. Voyez. Donc, moi, ça me choque, ça m'a toujours heurté. J'ai jamais porté de cravate.
D'accord, là, ça, on a compris.
Et je trouve ça absolument répugnant et surtout de l'imposer comme ça, comme c'est fait, comme c'est le cas. Fabriquer et créer une espèce de classe de porteurs de cravates, ça me dérange. Le dénouement sur les plages, c'est pour moi, c'est l'écume, c'est totalement anecdotique.
Merci à vous, Serge. Alors effectivement, la cravate, ça fait partie de ce qu'on appelle le dress code au bureau, enfin en général. Et c'est surtout tout à fait obligatoire à l'Assemblée nationale, Frédéric Monneron.
Oui, alors bon, ça c'est assez intéressant. D'abord, bon, la cravate, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire votre intervenant. Freud disait que c'était le pénis que l'homme portait à son cou. Bon, donc c'est une marque effectivement très masculine. Il reste que là, dans la révolution des années 60, les femmes ont aussi pu porter des cravates, soit dit en passant, c'est resté relativement limité. Mais enfin, bon, il y a eu des défilés de mode avec des femmes en cravate, on en a vu un certain nombre. Mais enfin, en tout cas, bon, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'elle est quand même en train de disparaître. Si on regarde l'histoire de la cravate, si on peut dire, bon, entre parenthèses, elle apparaît quand même assez tardivement dans le 19e siècle, la cravate qu'on la voit aujourd'hui. Bon, entre parenthèses, le terme vient de croate, parce que c'était les soldats croates qui portaient ce genre de choses, soit dit en passant. Bon, c'était au début plutôt un foulard qu'on nouait tout son cou, au début du 19e siècle. Bon, elle a évolué effectivement pour atteindre ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, il y a eu quand même des contestations de la cravate, un peu comme votre intervenant à l'instant. Déjà à la fin du 19e siècle, je pense en particulier à Oscar Wilde, un grand écrivain irlandais, qui refusait ça, aussi, qui trouvait ça particulièrement laid. Et puis, bon, alors c'est resté très limité, mais dans les années 60, à nouveau, bon, avec la mode hippie, disons, hein, pour aller vite, la cravate a été remise aussi assez largement en question. Et aujourd'hui, elle est quand même très nettement remise en question. Bon, effectivement, on peut dire qu'elle est vraiment devenue ringarde. Alors bon, déjà, je pense que l'évolution vient de deux choses où on porte de moins en moins de cravates. Justement, je dirais les start-upers. Les chefs d'entreprise des start-up, de haute technologie. Est-ce que vous avez jamais vu Steve Jobs en cravate? Non, effectivement. Alors par exemple, alors vous voyez, bon, alors ça, effectivement, déjà dans le milieu des affaires et de l'entreprise, commençait à être abandonné. Et ça touche maintenant deux secteurs. Les deux secteurs qui résistaient largement, c'était les secteurs de la finance. Or, désormais, effectivement, la bourse, on porte plus forcément de cravate. Mmh. Et puis le dernier secteur, c'est évidemment celui de la politique. Mais là aussi, il y a quand même des évolutions assez nettes. Bon, maintenant, il est quand même assez fréquent de voir des hommes politiques se présenter, oui, par exemple, à la télévision sans cravate, ce qui était inimaginable il y a encore 20 ans, ou même 10 ans.
Enfin, globalement, les évolutions. Globalement, le costume cravate reste de rigueur pour les hommes, Elvire Omtaz, hein, et le tailleur classique pour les femmes, en résumé.
Ouais, et je trouve ça assez intéressant que l'auditeur ait évoqué d'emblée la cravate, et donc comme vous dites, on peut élargir au costume, parce que on parlait depuis le début de l'émission beaucoup des contraintes sur le corps des femmes. Finalement, ça fait un siècle que les hommes, eux, sont cantonnés avec ce fameux costume cravate. C'est assez provocateur dans certains milieux de ne pas en porter. Vous parliez de l'Assemblée nationale, je pense à François Ruffin qui a eu une remontrance après s'être présenté avec un maillot de
encore une histoire
petite,
de règlement.
Voilà, exactement, avec un maillot d'une équipe de foot. Pour les femmes, le tailleur, c'est vrai, ça évolue peut-être un petit peu plus que pour les hommes, parce que elles, dans les milieux, mettons de la finance ou des avocats, c'est ces milieux où on est obligé d'avoir un code vestimentaire assez strict. On voit que très doucement, les femmes peuvent un petit peu changer la donne. Mais bon, comme vous dites, ça reste encore de mise.
Alors très doucement, hein, j'ai parlé du tweet de Nadine Morano sur Sibeth Ndiaye, lui reprochant ses tenues de cirque indignes de sa fonction. On se souvient aussi de Cécile Duflot qui arrivait en jean au Conseil des ministres. Hein, ça avait fait scandale. La liberté vestimentaire des politiques, en fait, elle est quasi nulle.
Elle est quasi nulle, ouais. Elle est extrêmement limitée. C'était même presque drôle de les voir pendant la canicule en costume avec la cravate serrée comme pas possible, et on se demandait comment ils tenaient. Pour parler de Sibeth Ndiaye, les petites piques de Nadine Morano, on y est habitué sur divers sujets, donc je pense que c'est pas ce qu'on doit retenir, mais c'est vrai que les politiques, qu'ils soient hommes ou femmes, sont assez en fait, disons que quand ils sortent du champ du costume, on prend ça comme une provocation. Vous parliez du jean de Cécile Duflot, pour rester sur le sujet. Cécile Duflot, elle avait porté aussi cette robe à fleurs à l'Assemblée, qui a même fini au musée, tellement ça avait fait scandale. C'était en 2012, si je dis pas de bêtises. Elle avait eu l'audace de se présenter en robe à l'Assemblée et avait été copieusement sifflée par les députés, ce qui montrait à peu près le niveau d'acceptation.
Alors qu'à l'inverse, Michel Alliot-Marie, qui était venu en pantalon...
Exactement. Pour réussir à rentrer à l'Assemblée, avait dû dire qu'elle l'enlèverait si on ne la laissait pas rentrer en pantalon.
Alors, je le redis, hein, il n'y a comme règle écrite que la cravate qui soit obligatoire à l'Assemblée nationale et le jean interdit au Sénat. Tout le reste, ce sont des règles implicites, des règles tacites, mais qui ne sont écrites nulle part. Sur ces deux points qu'on a abordés depuis le début, deux commentaires de Gilles, qui nous écrit... que Sibeth Ndiaye, de son point de vue, n'a rien compris, puisque sans lui demander de s'habiller en Chanel, on est en droit de lui dire que ses choix personnels ridiculisent sa fonction. En tant que femme, nous dit Gilles, elle s'habille comme elle veut. En tant que membre du gouvernement, elle a une obligation de retenue. Et puis sur les monokinis, les burkinis, ce commentaire d'Arnaud, il est prêtre, aumônier d'étudiants à Lyon. Il est actuellement en service d'été à Valras-Plage pour un mois. Il nous dit « J'ai sous les yeux, sur la plage de Valras, une femme musulmane habillée de la tête aux pieds, à quelques mètres de femmes qui sont en monokini et même quasiment en string. Alors j'accepte ces tenues au nom de la liberté, nous dit Arnaud. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais quitte à interdire l'une de ces deux tenues, je ne vois vraiment pas pourquoi ce serait l'habit musulman qu'il faudrait interdire. Le string n'est absolument pas une évidence républicaine. S'il vous plaît, conclut Arnaud, qui donc est prêtre, corrigez-moi si je suis un mauvais républicain. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Monneron, le string n'est pas une évidence républicaine, nous dit Arnaud.
Oui, enfin oui, on peut dire. Mais enfin bon, là aussi, au demeurant, le string aujourd'hui est en perte de vitesse. Son heure de gloire, c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Hein. Et bon, là aussi, enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, parce que bon, après tout, son heure de gloire, pensée aussi dans les années 70 et 80, ça a existé sur les plages en particulier. Il suffit de regarder le film Les Bronzés, vous verrez que Christian Clavier est en string à l'époque. Ouais, c'est un homme pour le coup. Donc bon, enfin, et ça à l'époque. l'époque, bon, c'était effectivement le string quand il est apparu à ces époques-là, c'était aussi pour carrément un bronzage intégral. On voulait pas être complètement nu, enfin encore que les plages naturistes ça existe aussi. Mais bon, vous voyez, alors, tout ça est assez relatif dans un sens. Mais enfin bon, c'est vrai que je pense que si on revient sur ce point, enfin à la fois sur les seins nus, enfin le monokini, enfin il y a une sorte de régression, pourrait-on dire, enfin dans la liberté. Peut-être aussi un point qui est encore plus inquiétant, c'est il n'y a plus rien d'érotique en quelque sorte. Et bon, regardez, le terme d'érotique est remplacé aujourd'hui par le terme de pornographie. Tout est porno en quelque sorte. Alors on va dire que les seins nus sur une plage c'est porno, alors que bon, à l'époque, on allait dire que c'était érotique. Bon,
mais vous avez aussi peut-être qu'il y a plus. Mais vous avez utilisé le mot régression. Pour vous, on est dans une période de régression au niveau.
Enfin, j'ai pas le terme exact.
De liberté
bon.
Individuelle à cause du regard
des
autres.
C'est qu'il y a des représentations qui sont très fortes et qui reviennent. C'est surtout ça. Bon, voilà. Et bon, voilà, ça demanderait beaucoup de temps pour développer tout ça, mais ces représentations sont revenues avec force. Et bon, enfin, c'est lié à beaucoup de choses. En particulier, je pense qu'au rapport entre les sexes, bon, à la fois au féminisme, il y a le sida aussi qui a joué sans doute qui a eu quelque chose de très important dans tout ça.
Un nouvel appel.
Bon, simple.
Pardon, on va prendre un nouvel auditeur et on va continuer avec vous, Frédéric Monneron. C'est Thierry qui nous appelle, qui voudrait intervenir. Il nous appelle de Lyon. Bonsoir à vous, Thierry.
Oui, bonsoir. Je vais faire vite parce que je prépare un bon dîner.
Ah, c'est bien.
Le dress code, surtout en été, dépend-il des origines sociales?
C'est-à-dire le dress code où? Sur les plages, au travail?
N'importe où, surtout sur les plages, bien entendu, dans le sud de la France.
Mmh. Elvire Antaz, bien sûr que les pratiques vestimentaires sont une façon d'exprimer un certain rapport au monde social.
Bien sûr, je trouve que c'est une remarque très intéressante. Elles le sont et à la fois la frontière est de plus en plus poreuse. Je parlais en début d'émission du fait que le monde du luxe se soit approprié des codes de la rue. Aujourd'hui, on peut acheter un t-shirt DHL qui normalement coûterait 20 euros, qui, parce qu'il a été fait par un super créateur à la mode, va en coûter 300. Il y a un espèce de mélange des genres, c'est-à-dire que les classes sociales les plus aisées vont parfois dépenser beaucoup pour acheter des choses qui finalement reproduisent des codes sociaux d'une classe qui est pour le coup beaucoup moins aisée. Et c'est ça qui est assez drôle en fait à observer en même temps, c'est cette porosité, cette espèce de mélange des genres et des classes sociales à travers le vêtement.
Notamment chez les adolescents.
Tout à fait. Notamment chez les adolescents, qui sont les premiers à vraiment être les ambassadeurs de cette mode streetwear qu'on voit depuis quelques années.
Et pour qui l'apparence est un enjeu fondamental.
Bien sûr, et ce depuis longtemps.
Mm-hmm. Frédéric Monneron, on dit souvent que ce qui est à la mode, c'est de ne pas la suivre. C'est vrai que tous les mouvements de contestation se sont manifestés dans l'histoire par des codes vestimentaires alternatifs. On se souvient des blousons noirs, on se souvient d'Antoine et de ses chemises à fleurs.
Mmh. Oui, ça c'est vrai. Mais le problème, enfin bon, si vous voulez, le meilleur exemple serait sans doute le mouvement hippie. Bon, on a beaucoup parlé au moment du mouvement hippie de non-mode. Mais bon, la non-mode devient vite une mode. Effectivement. Alors bon, tout dépend effectivement comment cela est reçu. Je reprends l'exemple du mouvement hippie. Bon, derrière cela, il y avait une idéologie que après tout le monde pouvait plus ou moins partager. Hein. C'était le peace and love. Alors bon, effectivement, ça a pu s'étendre. Alors, au départ, ça vient de la rue, effectivement, on pourrait dire. Mais bon, ça a été repris en charge par les couturiers. Et bon, une large frange de la population a pu s'habiller à cette mode hippie. D'ailleurs, on essaye de la renouveler assez régulièrement, avec plus ou moins de succès. Si on prend, par exemple, quelques années plus tard, les punks. Alors là, bon, l'idéologie qui a été derrière, elle était quand même beaucoup moins partageable, si on peut dire, puisque c'était Destroy, No Future, etc. Alors là, ça, beaucoup, enfin certains couturiers, je pense à William Westwood, là, s'agit en quelque sorte, mais bon, ça c'est quand même le plus grand nombre n'y a pas adhéré en quelque sorte, vous voyez. Là, il y a toujours la médiation du couturier à cet égard. Alors bon, aujourd'hui, c'est effectivement le même phénomène. Bon, vous avez effectivement, on prend une mode qui vient de la rue, enfin le streetwear comme on l'appelle, et effectivement, bon, mais ça reste, alors là c'est très fragmenté je pense aujourd'hui, c'est que bon, certains vont effectivement, parce que ça a été pris en charge par des couturiers, vont pouvoir l'adopter, mais ça reste relativement limité si vous voulez, ça, c'est pas sur une très grande sur la population dans son entièreté.
Les pratiques vestimentaires, là vous parliez des punks, sont un moyen de communication non verbale finalement. Concernant les punks, on peut parler d'un langage d'agressivité comme on porterait un beau costume par arrogance, par exemple.
Oui, dans une certaine mesure, bien sûr, c'est ça, oui. Ben, vous avez, c'est effectivement, comme vous disiez, que c'est une révolte, le vêtement, enfin, bon, et en particulier, ça se passe souvent à l'adolescence, les révoltes, la rébellion des adolescents, elle se passe tout d'abord par le vêtement. Ça, c'est quelque chose que nous avons dans une certaine mesure tous connu. Effectivement, on veut pas s'habiller dans le cadre traditionnel, celui qui a été imposé par les parents et la société. Et donc, bon, on trouve ça. Alors, effectivement, à un niveau plus large, il y a effectivement cette révolte qui passe tout d'abord par le vêtement. Et regardez, alors bon, je reviens un peu tout à l'heure quand on parlait justement de la cravate. Alors, c'est parfois assez paradoxal, le phénomène le plus extraordinaire, c'est Jacques Lang en 1981
qui se présente à l'Assemblée
avec un costume Thierry Mugler, Colmao, mais ça fait scandale. Mais pas du tout dans le sens où on pouvait le penser, puisque bon, c'était un ministre d'un gouvernement de la gauche qui va arriver au pouvoir, on aurait pu penser que ça aurait été interprété comme l'éloge du système maoïste, mais pas du tout. C'était une distinction absolument intolérable dans cet endroit-là. C'est tout à fait l'inverse.
Et oui, les règlements de l'Assemblée, on en a parlé. Un nouveau témoignage, c'est Céline qui nous appelle de Vincennes. Bonsoir à vous, Céline.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Allez-y.
Donc en fait, oui, je disais aux techniciens, là, j'ai une quarantaine d'années et je pratique le naturisme depuis ma naissance. Mmh. Et donc en fait, j'apprécie beaucoup le sentiment de liberté, de lâcher prise qu'on a à pratiquer, moi sur le site où je vais. Et c'est ce que je disais là hors antenne, il n'y a pas de voyeurisme, d'exhibitionnisme, le site où je vais c'est pareil, il n'y a pas d'échangisme, et c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup ce sentiment de totale liberté, de respect aussi, parce qu'on voit des gens handicapés, on voit des gens de tous les âges, de tous les milieux, et c'est hyper agréable de pouvoir se dévêtir, de se baigner nu, de profiter du soleil nu, et ça rajoute quelque chose à mes vacances.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi un code, en quelque sorte, le code du non-habit ?
Oui, aussi, oui, c'est aussi... oui, c'est vrai que c'est un code qu'on adopte. C'est un peu, oui, je vous dis, ça correspond à un lâcher-prise total. Et puis, ce qui est aussi agréable, c'est qu'on a plaisir à s'habiller, par exemple, le soir. Et puis aussi, les gens portent ce qu'ils veulent dans la journée, au moment de la journée, et tout le monde est respectueux de ça. Bon.
Merci à vous, Céline. C'est ce que nous dit aussi Béline hein, par mail. Elle dit « J'ai grandi avec deux parents qui se promenaient nus devant mes frères et moi. Je suis certaine que plus on se cache, plus les malaises par rapport au corps sont importants. Tant de corps différents dans la vie, de quoi briser tous les stéréotypes que la société nous impose. » Elvire Amtaz.
Ouais, c'est intéressant. Quand vous reparliez de code, je pense qu'effectivement, quand on est dans une assemblée où tout le monde est à poil, on est forcément moins gêné. Il n'y a pas ces regards insistants qui peuvent avoir lieu si on est la seule fille en monokini sur une plage où tout le monde
est plus couvert. Question d'origine sociale.
Voilà, il y a une forme de mise à nu littérale et symbolique qui est assez forte. D'ailleurs, dans l'étude de l'IFOP, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le regard des Allemands sur le monokini était plus favorable que celui d'autres pays, notamment parce que les Allemands pratiquent en l'occurrence beaucoup le naturisme,
oui,
et donc ça change aussi un peu leur perception des corps à la plage.
Frédéric Monneron, ce symbolisme du naturisme.
Ah oui, ça c'est autre chose, ceci dit. Bon, entre le naturiste et le monokini, il y a une pièce, c'est-à-dire c'est le bas. Vous savez, il y avait cette fameuse publicité, demain, dans les années 70, demain j'enlève le bas. Mais effectivement, bon, c'est un peu différent. Mais bon, le naturiste, vous savez, bon, d'une part, ses origines sont assez trompeuses. En fait, ça vient effectivement d'Allemagne, ça vient du nazisme.
Ça, ah oui.
C'est quelque chose qu'on sait assez. Eh oui, non, enfin bon, oui. C'est des choses qu'on sait assez peu. Hein. Mais enfin bon, peu importe. C'est sorti de ce cadre-là. Mais en tout cas, c'est vrai que les Allemands pratiquent le naturisme assez largement. Ceci dit aussi, entre parenthèses, au niveau du l'abandon du soutien-gorge, on pourrait dire dans les années 70 et 80, je pense que c'est les Allemandes étaient plutôt en avance. Enfin, je veux dire, c'était elles qui avaient abandonné le soutien-gorge beaucoup plus que les Français.
De façon générale, Frédéric Monnerot, en guise de conclusion, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une confusion des générations et des sexes? Est-ce qu'on tend vers l'idée d'une égalité totale s'agissant des vêtements?
Non, parce que on parle aujourd'hui de la mode unisexe. Cette année, on parle de la mode unisexe, mais c'est pas nouveau. Une fois encore, la mode unisexe, on en a parlé beaucoup à la fin des années 60 et au début des années 70. Tout le monde allait s'habiller pareil. Bon, je dirais que dans un sens, on tend effectivement un peu vers ça. Je parlais du pantalon pour les femmes désormais qui s'est largement diffusé. Et on va vers le système fermé peut-être pour tout le monde, mais il reste qu'il y a les corps. Et ça, bon, on bute sur effectivement des barrières physiques. Le corps de la femme et le corps de l'homme ne sont pas les mêmes.
Merci à vous, Frédéric Monnerot, professeur de littérature et de sociologie de la mode à l'université de Perpignan via Domitien. Je rappelle votre ouvrage, La sociologie de la mode, paru au PUF. C'était en 2010. Merci à vous, Elvire Omtaz également, rédactrice en chef du pôle Actu à Grazia. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de la tenue vestimentaire au travail, hein, mais ça relève de la liberté individuelle. En revanche, la liberté de se vêtir à sa guise n'est pas reconnue comme une liberté fondamentale au travail. Hein. L'employeur peut imposer un règlement selon la nature du travail qui est le nôtre. C'est l'avantage de la radio, il n'y a pas d'obligation vestimentaire. Merci à Ludovic Asselot et Loïc Frapsos qui assuraient la technique de cette émission. Merci à Anna Buis pour la réalisation, Pierre Desertaines, Emma Ferret pour la préparation, Mathilde Sour pour la documentation. Et merci aux techniciens de Montpellier également. Il est 20h sur France Inter.